franceinter.fr.
Le professeur Choron doit se retourner dans sa tombe. Et pas seulement le professeur Choron, mais aussi Madame de Gaulle et Michel Debré. S'ils savaient que le ministre de l'Intérieur, et pas le moindre, hein, particulièrement gratiné, le Premier ministre, la leader du Front National, le directeur du Figaro apportent tout leur soutien à Charlie Hebdo. C'est pas extraordinaire, ça? Ah, les temps ont bien changé depuis la couverture de Bal tragique à Colombie. Enfin, j'espère que Cavana et Ciné ont le cœur bien accroché et qu'ils vont supporter le choc. Déconnez pas, les mecs, surtout aujourd'hui, le jour des défunts. Là, je crois que Charlie Hebdo est vraiment mort, en fait. Enfin, je parle de Charlie Hebdo, de Bal tragique à Colombie.
Bonjour Daniel, c'est Yannick Delamalle. Je me pose une petite question. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire appel à l'OTAN pour bombarder Bruxelles? Parce que apparemment Bruxelles n'est pas content de voir que le Premier ministre grec va demander l'avis à son peuple. Hein, c'est la moindre des choses dans une démocratie, non? Ah, je croyais. Non, ben, il va demander l'avis à son peuple, hein, par référendum, et notre Nicolas National ne voit pas ça du même œil, ni Angela Merkel, ça les choque, on croirait que ça les choque, qu'un Premier ministre demande l'avis à son peuple. Bon, on est habitué, hein, le référendum sur le traité de Lisbonne, on nous l'a mis dans l'os, bien comme il faut, et on nous a fait le même, on a juste changé la couverture, c'est tout. Ce qu'il y a dans le livre, c'est la même chose, mais la couverture a changé, donc voilà, on nous a enfumé. Donc, ne faudrait-il pas faire appel à l'OTAN pour bombarder Bruxelles, cette dictature européenne? C'est pas un gros mot, le peuple, hein. Faut faire attention, hein. Le peuple, c'est comme un boomerang. Des fois, il vous revient en pleine poire. Allez, au revoir.
Finalement, en Grèce, c'est le peuple qui va choisir par référendum s'il doit ou non rembourser sa dette. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il vote oui. Alors, s'il vote non, que va-t-il se passer? En fait, il va rien se passer. Le monde ne va pas s'écrouler, c'est pas parce que 10 millions de gens ne remboursent pas leurs dettes que ces 6 milliards 990 millions qui restent vont tout à coup mourir d'un infarctus. Par contre, le fait qu'il ne se passe rien va faire qu'il va se passer des choses. Parce que les Espagnols, les Italiens, les Français vont se dire « Mais, et nous alors? Pourquoi on ferait pas la même chose ?» Et comme on est déjà en campagne pour les présidentielles depuis un bon bout de temps, et que l'un des sujets principaux, c'est précisément la dette, tous nos beaux candidats vont peut-être devoir réviser sérieusement leur copie sur le sujet.
En 2005, il y a eu le référendum sur la Constitution européenne. Le résultat de ce référendum a été supprimé, bafoué, en 2007. Là, Papandréou il a commencé à parler du référendum éventuel qu'il pourrait faire à son peuple, les Grecs. Et tout de suite, ça fout le feu dans tous les gouvernements européens. Et alors, référendum, c'est quoi? C'est l'homonyme de dictature, alors, pour les gouvernements européens. Ouais, ça doit être ça. Référendum, dictature, c'est des mots qui ont une même signification. Ben oui, la dictature du prolétariat.
Bonjour, Marie-Hélène Rouen. J'ai trouvé un bouquin très étonnant dans une foire à tout. 1 euro, c'était pas cher, faut pas se priver. Jacques Servier, La façon d'entreprendre, édition du Rocher. Dans ce bouquin, vous avez 4 idées pour les fonctionnaires. C'est franchement génial. Ça date de 1991. 4 idées, elles sont fort simples, dit Monsieur Servier, laboratoire Servier, Mediator. Première idée. Augmenter au fur et à mesure du possible de 20% la rémunération des fonctionnaires. Deuxième idée, elle est la condition nécessaire de la première, diminuer les effectifs de 20% en limitant les recrutements. Troisième idée, intéresser matériellement tous les fonctionnaires à des objectifs simples, augmenter les revenus du pays, diminuer les dépenses de l'État. Il n'y a pas de honte à participer à la prospérité si l'on y contribue. Quatrième idée, pour permettre la limitation des effectifs, restreindre de façon drastique les interventions de l'État, se borner à celles qui sont d'une utilité évidente, supprimer à tout prix les lois et réglementations étouffantes dont l'application entraîne des corvées sans fin. Un jour, il faudra par nécessité réaliser une réforme dans ce sens. Parions, hélas, qu'elle sera infiniment complexe et modérément efficace. Le tout avec, en exergue, un petit proverbe de Lao Tzu, « Gouverne le mieux qui gouverne le moins ».
En direct de Nice, pour le contre-sommet du G20, ça bouge. Salut Daniel, à bientôt. Et Rémi du Vaucluse.
Salut à tous. Bah, hier, on était à Nice, à la manif. Hein. Ce qui était impressionnant, c'était de voir qu'il y avait environ 10 000 personnes et pratiquement autant de flics. L'ambiance était bon enfant. Et ce qui était sympa, c'était que le 1er novembre, le jour des morts, finir la manif aux anciennes abattoirs de Nice, ça avait un côté assez comique. On y retourne aujourd'hui, il y a des débats, il y a des forums, ça se passe un petit peu partout dans Nice. Vous pouvez aller sur Internet pour voir le programme. Et puis ça continue, puisqu'il y a encore des trucs demain. Et c'est une manifestation à l'entrée de Monaco pour les paradis fiscaux. Et vendredi, il risque d'y avoir quelques petites surprises sur le G20 à Cannes. Allez, ciao, viva, portez-vous bien.
Voilà, vous avez reconnu notre ami Eric, qui évidemment ne manque pas le contre-sommet du G20 à Nice. Ça a commencé hier, ça va durer jusqu'à vendredi. Et bien sûr, vous avez compris, c'est le grand G20 à Cannes, un G20 sans aucune espèce de légitimité, qui décide pour 192 pays et qui décide de rien du tout, parce qu'à chaque fois, c'est des effets d'annonce, des promesses qui ne sont quasiment jamais appliquées. Alors aujourd'hui, on va faire un tour, là, à Nice, avec Antoine Chao, qui va nous donner un petit peu l'ambiance très 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 sécuritaire, énormément de police et de gendarmerie et de déployés dans la bonne ville de Nice. Et puis on ira faire un tour à New York, à Wall Street, Occupy Wall Street. Vous connaissez ce mouvement qui est tenace et qui fonctionne pas mal du tout aux États-Unis. Et on retrouvera Naomi Klein. Naomi Klein, vous voyez, l'auteur de la stratégie du choc qu'on avait reçue en 2008. On va la retrouver là, à New York, en pleine action, vous allez voir. Elle ressemble tout à fait à Jean Jaurès. Oui, le 25 mai 1913, il y a des photos de 1913 qui représentent, elles sont très célèbres, Jean Jaurès en train de s'adresser à une immense foule, entre 50 000 et 150 000 spectateurs qui étaient là. Or, Jaurès parle sans micro. Le micro n'était pas encore inventé, si nos renseignements sont bons, en 1913. La sono n'était pas inventée en 1913. Donc, Jaurès parlait. Et puis, il y avait des voix qui répétaient ce qu'il disait pour ceux qui étaient plus loin dans la foule. Et bien, c'est exactement ce qui s'est passé ces jours derniers à Wall Street, en plein Manhattan. La sono avait été coupée et Naomi Klein s'est exprimée comme ça vers le public et vers les manifestants et dissidents de Occupy Wall Street. Et puis, on retrouvera aussi Naomi Klein, qui va nous parler de son bouquin, nous reparler à nouveau de son bouquin « La stratégie du choc », où elle trace un lien entre, vous vous souvenez, le Chili de Pinochet de 1973, le massacre de Tiananmen en 89, les attentats du 11 septembre, la guerre en Irak, le cyclone Katrina, la crise financière, etc. Naomi Klein trace un lien entre tous ces événements, ces guerres, ces chaos, ces désastres naturels, et elle montre dans ce bouquin, qui a eu un grand retentissement, comment à chaque fois le capitalisme néolibéral financiarisé exploite ces situations à toutes fins utiles. Et on verra peut-être que dans cet afflux, cette présence policière énorme à Nice, il y a peut-être un lien avec la démonstration de Naomi Klein. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Salut à tous les assoiffés de pouvoir et de contre-pouvoir. Le jeudi 3 novembre à 20h30, au Café Repère d'Allemand, chez Marco, on débattra du pouvoir sous tous ses aspects. Prise de pouvoir, abus de pouvoir et contre-pouvoir dans les groupes. Comment mettre en place des régulations, etc., etc. Le pouvoir, bénédiction ou calamité? En préambule, c'est Jean-Jacques Samuel, formateur consultant, qui nous fera un exposé sur le sujet.
Être de droite, qu'est-ce que c'est? Valérie Rousseau-Debord, sur les rangs pour être porte-parole de Sarkozy pour la campagne 2012, nous l'a expliqué le 31 octobre au Petit Journal. Je cite, « Être de droite, c'est considérer que l'individu prime le groupe, que les politiques publiques doivent être menées en fonction et pour des individus qui sont tous différents, et c'est considérer que, avant tout, nous devons mettre en place une équité et non pas une égalité. » Fin de citation. Être de droite, c'est donc lutter contre deux des principes de la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. Voilà, il fallait que ce soit dit, et ça a été dit par donc Valérie Rousseau-Debord, députée UMP, sur les rangs pour être porte-parole de Sarkozy pour la campagne 2012. Voilà, c'était Christophe du Pas-de-Calais.
Lorsque l'Allemagne de l'Est a érigé le mur de Berlin, un certain nombre de citoyens sont partis. On disait alors qu'ils votaient avec leurs pieds, en quittant un territoire qui leur apparaissait invivable. Ceux qui sont partis ont sans doute eu une meilleure vie. Aujourd'hui, le capitalisme a dressé un nouveau mur, celui de l'argent. Un mur ou une fracture insondable, comme vous voulez. Ce qui est sûr, c'est qu'une partie des occupants du monde capitaliste n'ont plus envie de vivre dans cet endroit virtuel. Alors ne nous étonnons pas du référendum grec. Il y aura les courageux qui veulent quitter ce système mortifère, qui partiront à l'aventure d'un autre modèle financier, donc sociétal, et ceux qui resteront, misérables esclaves d'une oligarchie, un monde de vampires, quoi. Que chacun consente aux efforts nécessaires, dit M. Sarkozy. Chiche ! En tout cas, on ne peut que constater une chose. Vous ne voulez pas de la décroissance, vous avez le freinage d'urgence. C'était Christian, à Néron.
Salut Daniel, c'est vraiment dégueulasse ce qui est arrivé à Charlie Hebdo, non, sérieux. D'ailleurs, heureusement qu'il y a France Inter pour défendre la liberté des journalistes. Mais moi, ça me rappelle la semaine dernière, c'était mes copines de Cosette. Tu sais, le magazine plus féminin du cerveau que du Capiton. Elles portaient plainte après le piratage de leur serveur informatique et un email de menace. En fait, les fichiers supprimés par les pirates, ils concernaient l'article du numéro de novembre sur les viols commis par les militaires français au Rwanda pendant des années. Et quand tu lis l'article, tu comprends qu'il n'a pas dû plaire à tout le monde. Et là, tu vois pas un mot sur France Inter. À croire que c'est plus facile de taper sur les islamistes que sur les violeurs de l'armée française. Et puis, au passage, ça fait vendre le journal de l'ami Valls. D'ailleurs, quand est-ce que tu nous repasses ton émission sur la création de Ciné Hebdo ? Qu'on se marre un peu. Allez, bisous à tous, c'était Marion.
Bonjour Daniel, c'est Emmanuel à Nîmes. Donc j'étais hier à la manif anti-G20 à Nice. Donc on y a vu un service public très très présent. Enfin bon, vous avez compris, c'est des flics partout, par milliers. Un véritable siège, des flics parqués à tous les coins de rue, équipés de pieds en cap, avec des gilets pare-balles. Des tasers, des flashballs, des grilles énormes barrant les rues, toutes les rues. Des hélicos qui tournent autour de nous, des flics de la BAC en embuscade qui étaient prêts à bondir sur nous. Donc on a tous fait pas mal de manifs et franchement on n'avait jamais vu ça. Alors moi je pose une question, enfin on s'est tous posé une question clairement, pourquoi ? Pourquoi ces énormes dépenses en période d'austérité ? Combien ça a coûté ? Est-ce que c'était pour protéger les vitrines d'Estrosi ? Ou alors pour ménager les nerfs de nos dirigeants qui vont se réunir d'ailleurs qu'aujourd'hui à 40 km de ce qui s'est passé hier. Est-ce que c'était de l'intimidation ? Est-ce que c'était de la provocation ? On n'en sait rien. Donc, nous on se retourne vers les journalistes. J'espère qu'ils seront enquêtés utilement aujourd'hui sur ce qui s'est passé, sur ce coup d'éclat du ministère de l'Intérieur, son coût financier, sa signification politique. Pour nous, le droit à la manifestation politique n'est plus respecté. Se mêler des choses sérieuses, c'est devenu hautement suspect. Et ne vous étonnez pas si vous êtes fliqué quand vous participez à ce genre de manifestation. Et très fliqué. Merci Daniel et bonne journée. Au revoir.
Mardi 1er novembre. Alors la ville est en état de siège, Nice est en état de siège, hein, mais pas par les manifestants, par la police, on a l'impression. Hein,
aucune rame ne circule entre cathédrale.
Alors vous êtes niçois et vous allez à la manif?
Moi je suis niçois, mais non, je vais prendre le bus juste à côté.
Il y a eu beaucoup de déploiements de policiers pour cette manifestation?
Ah ouais, énormément, je crois qu'il n'y en a jamais eu autant à Nice en même temps. Depuis que je suis à Nice, c'est la première fois que j'en vois autant.
Ah oui.
Ça fait 17 ans.
Et alors, qu'est-ce qui se dit alors que c'est des casseurs? Pourquoi il y a une peur sur la ville comme ça?
Il y a beaucoup de casseurs qui sont venus d'Italie et tout ça par la frontière. Et il y a plein de jeunes aussi qui viennent des moulins et tout à côté pour casser un peu.
C'est quoi les moulins?
Une cité à côté.
Ah ouais.
Pendant Nice. Ils nous ont dit de réduire les déplacements le plus possible, sauf si c'est urgent, mais sinon de rester chez soi.
Mais qui a dit ça?
La police et Dani ce matin aussi. Qui a une montée de tension et tout face au G20, que des altermondialistes du monde entier venaient pour manifester ici et tout ça. Et même la société qui fait les transports ici aussi, elle a dit.
Donc, psychose sur la ville, quoi, c'est ça. Alors Gus Macia, ils ont annoncé à Nice ce matin qu'il fallait éviter les déplacements aujourd'hui. Donc c'est vraiment la ville en état de siège, quoi. Couvre-feu sur Nice, quoi.
Ben, c'est-à-dire qu'ils font courir des bruits pour diminuer la mobilisation. Pour que les gens aient peur, ils ont arrêté les bus et les trams. Enfin bon, donc ils font tout pour que la mobilisation ne soit pas réussie. Mais en même temps, en faisant ça, ils se font peur à eux-mêmes et ils finissent par croire eux-mêmes à ce qu'ils racontent. Et que finalement, ça va être dangereux. Ils en sont presque à se dire que... Mais on ne comprend pas pourquoi les gens manifestent. Pourquoi ils ne sont pas contents? Est-ce qu'il y a des problèmes? Il n'y a pas de problème. Il y a une petite crise et ceux qui nous gouvernent ont les solutions. D'ailleurs, c'est grâce à eux qu'on est dans la crise. Donc, ils devraient au moins bien la connaître.
Ils sont là. Voilà, on arrive près de la manif. Alors, il y a effectivement un gros déploiement de gendarmes et de police en civil qui est là. Oula, on est du mauvais côté des forces de l'ordre, quoi. Ou du désordre économique. Ah ouais, on peut passer quand même.
Les hélicoptères.
On attend un petit psychose alors sur la ville, hein, avec hélicoptères, grillage anti-émeute. Bon, mais ça, c'est assez classique.
Évidemment, c'est pas un département très porté à manifester sur ses positions. Bien qu'il y ait quand même beaucoup de gens de gauche, et surtout, il y a beaucoup d'indignés chez les jeunes. Notamment chez les étudiants, chez les lycéens. Mais donc le fait qu'ils soient sortis, c'est un grand succès. Et c'est une manif très animée, hein, très belle, très colorée.
De la gendarmerie qui survole le cortège qui défile bon enfant dans les rues de Nice pour ce sommet du contre G20 qui va se dérouler ici en prémisse du G20 qui se tiendra lui à Cannes jeudi et vendredi. Alors vous êtes déguisé, costumé?
Oui.
Vous faites partie des dangereux manifestants?
Oui.
Qui menaçaient de mettre la ville à sac.
Je pense que cette crise de l'euro et celle qui était la précédente, on nous dit toujours que c'est terminé et que tout va être très bien et que la crise est derrière nous. Et jamais la crise ne sera derrière nous tant qu'on n'aura pas compris que ce n'est pas aux marchés financiers de commander, mais aux peuples qui ont gagné l'argent en travaillant. C'est ce que disait Roosevelt en 1933. Mais il semblerait que nos dirigeants ont oublié ça. Il ne faut pas se laisser commander par les marchés financiers. On peut faire un euro qui soit comme l'Europe devrait être, l'Europe des peuples et des citoyens, et non pas l'Europe de l'oligarchie financière.
Et alors, vous portez un soleil, c'est ça?
C'est statue de la liberté.
Ah, vous êtes la statue de la liberté?
Oui, c'est par dérision, vous pensez bien. Lincoln le disait déjà, ça n'est pas la liberté du renard dans le poulailler, il ne faut pas confondre.
Et vous avez aussi donc, voilà, la coiffe de la statue de la liberté, enfin de la liberté, quoi.
Oui, mais c'est pour...
Pour donner des chiffres. Et là, vous donnez des chiffres. France 2011, 2010, 2011. Compte courant, 269. Livret d'épargne, 510. Épargne financière ménage, 3500. C'est des milliards.
C'est en milliards d'euros. Mais c'est pour
en milliards.
Oui, en milliards d'euros. Donc c'est pour vous dire.
Fonds propres banque, 170 milliards d'euros.
Donc ça veut dire qu'en réalité...
Mais vous êtes économiste?
Je le suis par la force des choses. En réalité, ça veut dire que ce sont les établissements financiers qui ont besoin des citoyens et non pas l'inverse. Ce sont des illusionnistes. C'est avec notre fric qu'ils spéculent. Et ils n'en ont jamais assez. Donc la seule manière de mettre fin à ça, c'est de les mettre hors d'état de nuire, les spéculateurs, l'oligarchie financière.
Tremblez, spéculateurs.
Mais que d'un autre côté, il faut aussi qu'on fasse... Si on fait un pouvoir public, il faut que ce soit digne de ce nom. Parce que si c'est pour faire comme le Crédit Lyonnais, qui est du temps où M. Trichet était gouverneur de la Banque de France, et il l'a si bien surveillé que le Crédit Lyonnais est allé tricher aux États-Unis et s'est fait infliger une amende qui est maintenant à la charge des contribuables de France, l'ardoise provisoire étant 16 milliards d'euros. Donc M. Trichet, on a dit qu'il n'était pas au courant, c'est ce que les tribunaux français ont décidé. Moyennant quoi, il a aussitôt été intronisé gouverneur de la Banque Centrale Européenne et il cède maintenant sa place à son compère, M. Mario Draghi, qui était l'ancien dirigeant de Goldman Sachs Europe. Donc de même que M. Trichet n'avait rien vu pour le Crédit Lyonnais, M. Draghi n'avait rien vu quand Goldman Sachs cédait la Grèce à bidouiller ses comptes. Voilà.
À
donc
vous,
tout ça, c'est une mascarade.
Ouais, ils vous prennent pas au dépourvu, le G20 qui vient se réunir à Cannes, là, à côté.
Mais
hein.
Il faut que les gens comprennent qu'il ne faut pas... Vous lisez les fables de La Fontaine. Et donc, il ne faut pas se fier aux apparences. Il faut voir la substance qu'il y a derrière. Voilà.
Merci. Votre prénom ?
Je vous en prie, Alice.
Merci, Alice. Et là, je vois un vieux camarade, Eric, dit de Fayence. Faire payer les riches, mais maintenant, quoi. Maintenant.
Pas attendre.
Ça va, Eric ?
Nickel. Ouais, on est en pleine activité fakirienne.
D'accord. En même temps, tu fourgues du fakir.
Ce qui est intéressant, c'est le ridicule des forces policières, quoi. C'est-à-dire, c'est la lutte. T'as des hélicoptères, t'as des flics avec des camions, avec des vérins pour bloquer les rues. Moi, j'ai été chez ma mère avant-hier, là. Et à Golfe-Juan, alors que Golfe-Juan, c'est vraiment le truc qui risque rien, quoi. Il y a des commerçants qui avaient peur qu'il y ait des émeutes et tout. Enfin, ils ont affolé la population, alors que c'est ni plus ni moins des citoyens qui disent qu'ils marquent le coup en étant présents, en disant faut pas se foutre de notre gueule en permanence.
Les peuples d'abord, pas la finance. Face au G20, tous à Nice. Manifestation internationale, concert. 2 et 3 novembre, séminaire. Débat et action. Alors, il y a un cycliste avec être anti-Sarkozy, c'est bien. Construire ensemble une véritable alternative politique, c'est mieux. Alors vous êtes venu en vélo?
Ouais.
Alors qu'est-ce que vous pensez de cette mobilisation?
Je crois qu'on a fait tellement de battages sur les dangers qu'il y avait, les risques d'incidents et tout. Moi, j'ai entendu ce matin, ils ont parlé sur France Inter. Ils ont parlé de la manifestation que pour dire que les commerçants avaient peur, qu'ils fermaient les rideaux, etc. Je pense que pour l'instant, que je sache, il n'y a pas eu d'incident.
Là, on passe devant des boutiques.
Non, mais on est dans un quartier populaire, en plus, je veux dire, les gens...
Ils savent de quoi on parle, quoi. C'est ça que vous voulez dire.
J'avais peur qu'il y ait une banque qui soit abîmée. Là, je vois qu'ils ont mis des panneaux en bois devant. Ouais.
Voilà, il y a une banque... effectivement, il y a la banque populaire. Voilà. Il s'est barricadé, donc il a mis des planches en contreplaqué, etc. Ouais.
Il y a des policiers de partout, nous on est passé par l'école, il y a des voitures de police, des gendarmes à tous les cols, à tous les croisements, de toutes les
routes. À l'école, tout autour de Nice?
Dans tout le département.
Et vous, en vélo, vous êtes passé à travers les barrages filtrants, mais semble-t-il, ils ont arrêté des voitures, ils ont arrêté des trains.
Oui, ils arrêtent les voitures, mais bon, nous, en vélo, ils ne sont pas méfiés, quoi.
Bonjour, je peux vous poser une petite question, c'est pour France Inter.
Ne réponds pas à France Inter, ils sont dégueulasses.
Ah oui, pourquoi
avec ce qu'on a dit ce matin au journal,
pour décourager les gens de venir à la manifestation, que le quartier Saint-Roch était pratiquement en état de siège, que les commerçants tirent le rideau, alors que le rideau, les jours fériés, il est toujours tiré chez les commerçants du quartier.
Hein. Nous, le habitants du quartier.
C'est le quartier le plus tranquille de Nice, celui qui a encore son âme de niçois. En plus, à ces CRS-là, les gendarmes, on défend leur soupe et leur emploi parce qu'ils vont en supprimer.
Donc là, il y a un cordon de CRS devant la Société Marseillaise de Crédit, donc une petite banque, une petite agence.
Ils ont peur qu'on les nationalise tout de suite. Hein.
Ah, c'est ça, ils ont peur d'être nationalisés dans la foulée.
Exactement. Hein.
Bon, là, il y a des jeunes qui lancent 2-3 pommes. Bon.
On avance, ils attendent l'incident, là. Ils attendent que
pas
ça.
Pas de commentaire.
Police nationale, police nationale, police nationale, police nationale, police nationale.
You know, I think the most important thing to be said about the G20 is that it's not a legitimate institution.
Naomi Klein, 13 avril 2011, Alternative économique.
And it actually has very little power.
Vous savez, je pense que la chose la plus importante à dire sur le G20, c'est que ce n'est pas une institution légitime.
All its power, it only has the power that we grant it.
En fait, le G20 a très peu de pouvoir. Il a seulement le pouvoir que nous lui accordons. Ce n'est pas une institution légale, ce n'est pas les Nations Unies.
You know, it doesn't create binding agreements.
Il n'aboutit pas à des accords contraignants. Tout ce que c'est que c'est une manière pour les élites des pays les plus riches
to compare strategies for how to push through austerity measures and
de comparer leurs stratégies pour pousser les mesures d'austérité et obtenir que le prix de la crise économique soit supporté par les pays les plus vulnérables.
And to claim actually that they have to do it because the other people are doing it.
Et de prétendre en fait qu'ils doivent le faire parce que les autres le font.
So it's sort of it's a club.
Et donc c'est une sorte de club.
It's a social club, really, for world leaders to give each other cover.
Un club social pour les leaders mondiaux, pour se couvrir les uns les autres.
To do what they want to do anyway.
Et faire ce qu'ils veulent faire de toute manière.
So I think it's important to tell that story.
Je pense que c'est important de le dire.
Because in some ways it looks like a governance body, but it's not a governance body.
Parce que d'une certaine manière, cela ressemble à un corps gouvernemental, mais ce n'en est pas un.
It was not created through any legitimate democratic process.
Ça n'a été créé par aucun processus démocratique légitime. Bonjour Wall Street.
I love you.
Je vous aime. Et je ne dis pas juste cela pour que vous me répondiez tous que vous m'aimez. Mais c'est évidemment un des avantages de ce système de microphone humain.
Say on to others that you would have them say on to you.
Dites aux autres.
Alors vous avez compris. Vous avez compris, on est le 29 septembre, le 29 septembre dernier à New York, à Manhattan, à Wall Street, et c'est Naomi Klein qui vient de faire cette analyse express de la vraie nature du G20, ce qu'est le G20, qui se fait inviter par les manifestants de Occupy Wall Street à intervenir. Or, la sono avait été coupée, donc Naomi Klein est montée sur une estrade et a lu son texte de cette façon, c'est-à-dire qu'elle lance une phrase de son texte et le public autour d'elle répète pour ceux qui sont plus loin, et ceux qui sont plus loin répètent à nouveau pour ceux qui sont plus loin, exactement comme le faisait Jaurès en 1913, lors de ce fameux discours au Pré Saint-Gervais, devant 50 000 personnes, eh bien, évidemment, le micro n'était pas inventé, donc Jaurès s'adressait à la foule, très silencieuse, mais on répétait, il y avait un cercle de public qui répétait pour ceux qui étaient plus loin, etc. Écoutez ce que ça a donné donc en septembre à aujourd'hui donc à New York.
Et ils disent désolé, nous n'avons pas le choix, c'est la crise. Au cœur de la crise économique mondiale. C'est ce qui se passe partout dans le monde.
Voilà, c'est nos amis de Basta qui ont fait cette traduction. On mettra cette vidéo en ligne sur là-bas.org. Alors aujourd'hui, les indignés, bon ben voilà, des indignés américains, des indignés à Nice, des indignés un peu partout. Mais enfin, les vrais indignés, le véritable indigné aujourd'hui, c'est quand même le président de la République française qui est absolument indigné, lui et les technocrates et les de l'Union européenne sont absolument indignés par la décision du premier ministre grec, Georges Papandréou. Il a eu une idée mais de fou, de cinglé, d'irresponsable, c'est de proposer au peuple grec de voter. De voter, vous savez, ce truc voilà qu'on appelle la démocratie. Ils l'ont un petit peu inventé, d'ailleurs, les Grecs. Eh bien, ça, c'est une idée absolument saugrenue, stupide, dangereuse, extraordinairement imprévue et imprévisible, et dont on entendra évidemment parler dans les jours prochains, puisque c'est le G20 et que notre président qui pensait arriver là comme un héros sera probablement plutôt le président flop qu'autre chose. C'est un retournement tout à fait singulier. On retrouve, on va retrouver Naomi Klein pour cette heure ensemble, ce qui nous en reste en tout cas autour de son livre « La stratégie du choc ».
Considérons ce beau mouvement comme s'il était la chose la plus importante au monde.
Vous aviez deviné, c'est là-bas si j'y suis, c'est Daniel Mermet, avec Naomi Klein, la stratégie du choc. Flight number 2, arriving from New
York. Les années 40 ont été une décennie de découvertes charnières dans le développement de la médecine et de la psychiatrie. Les scientifiques ont développé une nouvelle technique pour soigner les adultes atteints de maladies mentales, l'électrochoc. Ce dernier nettoie le cerveau des patients en leur permettant de prendre un nouveau départ. Sur la page blanche ainsi obtenue, il devient possible d'imprimer une personnalité neuve et saine.
Refaçonner les individus, les mettre en état de choc afin de les soumettre. Un traumatisme collectif, une guerre, un coup d'État, une catastrophe naturelle, une attaque terroriste plonge tout à chacun dans un état de choc. C'est ainsi qu'après le choc, tel le prisonnier dans la salle d'interrogatoire, nous redevenons des enfants, désormais plus enclins à suivre les leaders qui prétendent nous protéger.
Alors, Naomi Klein, on va dire Naomi Klein ? Oui ?
Klein en anglais, mais Klein en français.
Vous avez publié un bouquin qui a fait un grand bruit, qui s'appelle The Shock Doctrine, et qui est traduit en français, qui est sorti en France aux éditions Actes Sud. La stratégie du choc. C'est un gros bouquin de 672 pages qui raconte comment les fanatiques du marché profitent des cataclysmes naturels ou non pour imposer leurs mesures économiques à des pays dévastés ou des régions dévastées, allant même parfois, comme en Irak, jusqu'à provoquer ce chaos. Et la métaphore qui pourrait illustrer votre démonstration, c'est l'image du théâtre en feu. Il y a un théâtre en feu, c'est la panique. Et évidemment, le public cherche à sortir du théâtre. Et une voix s'élève et dit « c'est par là ». Et la voix qui crie « c'est par là », pour vous, c'est celle du néolibéralisme que vous appelez le capitalisme de la catastrophe. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette métaphore ?
Plus ou moins, oui.
Plus ou moins, alors allez-y pour le moins.
No, it's certainly this is an economic. I'm talking about an economic and political strategy.
Moi, je parle d'une stratégie politique et économique.
And the image of the theater is certainly a graphic one.
Et cette image du théâtre fonctionne très bien, effectivement.
But it's not simply that people run; it's also that they follow.
Mais pour moi, ce qui est important de dire, c'est que les gens ne courent pas pour la sortie, ils suivent.
And the question is, who are they following and who is taking that leadership role?
Et là, toute la question est de savoir qui suivent-ils et qui leur montre la sortie de ces théâtres en feu.
But the main reason why I focus on these states of shock and the exploitation of the states of shock.
Mais la raison pour laquelle moi je m'intéresse à cet état de choc et la façon dont on les utilise.
Is to challenge the central lie of neoliberalism, which is that it has conquered the world because the people of the world demanded it.
L'idée pour moi, ça a été de remettre en cause le mensonge sur lequel est fondé le néolibéralisme, qui est que les gens l'attendaient, qu'il est naturel.
La plus grande puissance du monde ne s'imaginait pas vivre de telles scènes de désolation et de chaos.
Ces images ont fait le tour du monde depuis hier et sont déjà, tristement, entrées dans l'histoire.
Quatre jours après le passage de Katrina, les dégâts humains et matériels sont impossibles à évaluer. On parle de milliers de morts.
5 000 en Indonésie et plus de 1 000 dans les îles du sud de la Thaïlande. Il y a aussi 30 000 disparus.
La mort, elle est partout.
1 million de personnes ont dû fuir leur foyer après la catastrophe et beaucoup ont tout perdu.
Panique sur
Il s'agit du plus violent séisme dans le monde depuis 40 ans.
Nous sommes au nord du Sri Lanka, en territoire tamoul, dont la côte est a été balayée hier par le raz-de-marée.
Une dernière convulsion après cette journée d'apocalypse, Manhattan vient de perdre un troisième building. Hier, un peu avant 9h du matin, heure locale, un avion de ligne détourné s'écrase sur un gratte-ciel. 18 minutes plus tard, un deuxième appareil, un Boeing 757, sans doute guidé par les pirates de l'air aux commandes. A new world order. A new world order.
« 11 septembre 1973, Santiago du Chili, palais présidentiel de la Moneda, un militaire putschiste.
Alors, vous prenez toute une série de faits. Je rappelle que vous êtes journaliste et dans beaucoup de choses que vous racontez, il s'agit de reportages. Vous y êtes allé physiquement, comme le reporter que vous êtes. Il y a des endroits où vous ne pouvez pas être, évidemment. C'était par exemple en 1973, le 11 septembre 1973, à Santiago, au moment où Pinochet a pris le pouvoir au Chili. C'est un peu le point de départ de votre travail, parce que derrière Pinochet, il y a Milton Friedman, votre ami Milton Friedman, et vous prenez ensuite toute une série d'exemples qui n'ont pas l'air, comme ça, a priori, d'avoir une cohérence. Vous parlez de la Nouvelle-Orléans, enfin de Katrina, vous parlez du Sri Lanka, vous parlez de la Pologne, vous parlez de la Russie, vous parlez toute une série d'événements, mais vous leur trouvez quelque chose en commun, c'est qu'à chaque fois, ces catastrophes, ces cataclysmes, ces drames, etc. Et le traumatisme vécu par les populations est l'occasion par ce que j'appelle moi les djihadistes du marché d'imposer leur vision des choses, leur politique et de forcer les populations, comme vous dites, à les suivre. Alors, je veux bien qu'on commence avec le Chili. Est-ce que c'est le point de départ le Chili, 73?
Yes, and it is recognized by many neoliberal economists as the first laboratory.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a beaucoup d'économistes néolibéraux qui reconnaissent le Chili comme un laboratoire pour la mise en œuvre de leur politique.
So I start with Chile because they start with Chile.
Donc moi, je commence avec le Chili parce que eux-mêmes commencent avec le Chili.
Often, when the sort of triumphant history is told, there's a little bit of a sort of fudging of the dates where they'll start with Reagan and Thatcher and forget about Chile.
Souvent, quand ils racontent l'histoire glorieuse du néolibéralisme, eh bien, ils trifouillent un petit peu les dates. Ils commencent avec Reagan, Thatcher, et ils oublient le Chili.
But if we look at the analysis and the reporting in the 70s, there was a recognition from Friedman, from Hayek, that this was the first time their ideas were being tested.
Mais si on regarde ce qui était écrit dans les années 70, Friedman et Hayek eux-mêmes reconnaissaient que c'était la première fois que leurs idées, les idées qu'ils promeuvaient, étaient testées grandeur nature.
And I quote letters between Hayek and Thatcher, talking about the Chilean model and whether it could be transplanted to Britain.
Et d'ailleurs, je cite des lettres entre Hayek et Thatcher, Margaret Thatcher, qui parlent du modèle chilien et de la possibilité de le mettre en œuvre aussi en Grande-Bretagne.
Qu'est-ce qui s'est passé en 73? Pinochet prend le pouvoir et il appelle Friedman, il appelle les gars de l'école de Chicago.
Well, it went back. The reason why Chile became this laboratory for this extreme, as you say, the market jihadists.
La raison pour laquelle le Chili est devenu ce laboratoire pour ce que vous appelez les jihadistes du marché.
Is because of something that happened actually in the 1950s.
C'est à cause de quelque chose qui s'est passé dans les années 50.
Which is that the State Department, the United States State Department, was concerned about the emergence of a group of left-wing economists in Santiago.
En fait, à l'époque, le département d'État était très préoccupé par l'arrivée d'un groupe d'économistes de gauche à Santiago même.
And they were worried, of course, that about the threat that this posed to U.S. mining interests and other interests in Chile.
Et tout cela posait des problèmes pour les intérêts miniers, les intérêts américains, états-uniens en général, au Chili.
So they began an academic program to bring Chilean students, 100 students in all, to the University of Chicago to study under Milton Friedman and his extremist colleagues.
Donc on a ouvert un programme universitaire par lequel on a fait venir une centaine d'étudiants chiliens pour étudier avec Milton Friedman à Chicago, justement pour contrer l'essor de ces économistes de gauche à Santiago.
So this was the real influence of Friedman in Chile. Yes, yes, Pinochet, and he did meet. Yes, he was an advisor, but that was only a fraction of the influence that the University of Chicago had.
Donc Friedman a bien rencontré Pinochet, il a eu une influence à ce moment-là, mais si on veut vraiment voir l'impact de Friedman, il faut remonter aux années 50, et c'est là vraiment que ça commence.
Because what that meant was that even before the coup took place, as soon as Allende was elected in 1970, the plan began for the overthrow and also the post-Allende era.
Donc en fait, ce qui se passe, c'est que même avant le coup d'État, tout était en place pour déclencher ce qui allait être la phase post-Allende.
So the military prepared the armed intervention and the economists prepared the laboratory that would take place afterwards.
Donc les militaires ont préparé l'intervention armée et les économistes ont préparé l'intervention économique.
And these of course were the famous Chicago Boys.
Et ça c'est les Chicago Boys.
Mais il y a une contradiction là-dedans, Naomi, c'est-à-dire que Pinochet, c'est la dictature, c'est l'ordre. On voit ce que c'est, très bien, l'image est très claire. Et Friedman, c'est la liberté. C'est chacun fait ce qu'il veut, c'est l'ouverture, le libre-échange. C'est tout un tas de mots formidables qui plaisaient à l'époque. On était dans une période libertaire où chacun fait ce qu'il entend. On sort du carcan, on sort de l'État. L'État était très critiqué dans ces années-là. Donc, Friedman, c'est la liberté. Et Pinochet, c'est la dictature. Je parle d'image. Comment ça s'emboîte?
Well, this is the reason why we need an alternative history of neoliberalism.
Tout ça, ce que vous expliquez, c'est la raison pour laquelle on a besoin d'une histoire alternative du néolibéralisme.
The hypocrisy of the neoliberal project begins in its first laboratory and continues to this day on Wall Street.
L'hypocrisie du projet néolibéral commence à cette époque et continue aujourd'hui à Wall Street.
But the fact is that no democratic government in the world would implement Milton Friedman's extreme ideas. It took a brutal military dictatorship to have the courage, if you will, to use the repression necessary to impose these ideas.
Mais la vérité, c'est qu'aucun gouvernement démocratique à l'époque n'aurait mis en œuvre les mesures prônées par Milton Friedman. Il fallait un gouvernement dictatorial pour l'imposer, y compris par la force.
Ladies and gentlemen, we have the 100 drippers in the house tonight. And they just got back from Washington, D.C. I think they got something they want to say.
These United States are confronted with an economic affliction of great proportions.
Ronald Reagan.
The economic ills we suffer have come upon us over several decades.
I think they got something they want to say.
They will not go away in days, weeks, or months. But
20
janvier 1980.
In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem.
Some people say that he's guilty,
that he's guilty.
Some people say, I don't know,
I don't know.
Some people say, give him a chance,
give him a chance.
In this cause with friends and allies at our side, yet we understand our special calling. This great republic will lead the cause of freedom.
Je suis sûr qu'à tous les coups, avant même qu'on en soit là dans la rencontre, on vous dit, d'accord, on a compris, vous voyez une théorie du complot. Pour vous, il y a une théorie du complot. Comment vous défendez? Parce que vous allez dire non, mais comment vous dites non?
Well, this... I guess I don't see it as a conspiracy because it's an open conspiracy.
Moi, je vois pas ça comme un complot parce que ça se fait à découvert, c'est très public.
My evidence in the book, and as you know, there's a lot of documentation in the book, comes directly from the neoliberal economists who, in their technocratic writings, have deeply explored the connection between their ability to impose these policies and the presence of profound crisis.
Moi, tout ce que je dis s'appuie sur des documents que j'ai trouvés dans les analyses technocratiques des néolibéraux eux-mêmes, qui montrent très bien le lien entre les mesures qu'ils mettent en œuvre et ces moments de crise qu'on rencontre.
So all I'm saying is, the politicians know about this strategy, the economists know about this strategy, and it's long past time that the public knew about this strategy.
Et tout ce que je dis, moi, c'est que les politiciens connaissent ces stratégies, les économistes connaissent ces stratégies, et il est grand temps que le grand public les connaisse, bah, lui aussi.
And it's been very exciting for me with the book in the United States because where I'm really seeing is that the book has been useful to a lot of people in understanding what's happening during this economic crisis.
Et j'ai trouvé que ça a été assez excitant pour moi de voir comment mon livre devenait utile pour tout un tas de gens qui cherchaient à comprendre ce qui se passe dans la crise économique que nous traversons.
Because that's the way I think of my work, not as an explanation of everything, but really just as a tool that people can use to be, you know, more engaged as citizens.
Et c'est comme ça que je vois mon travail, pas fournir des explications, mais plutôt une boîte à outils que des gens peuvent utiliser lorsqu'ils veulent s'impliquer, s'engager éventuellement.
And once again, it's not a conspiracy. You know,
encore une fois, c'est pas un complot. Hein.
I'm not sure the extent to which Europeans understand that the think tank industry in the United States is a multi-billion-dollar industry.
Je ne sais pas exactement à quel point c'est clair pour les Européens que les think tanks, ces boîtes à idées, représentent une industrie de plusieurs milliards de dollars aux États-Unis.
They are much more powerful than the universities.
Ils sont beaucoup plus puissants que les universités.
They have unlimited funds given to them by the elites.
Ils ont des fonds illimités qui proviennent directement de l'élite.
And so their job really at the think tanks, the reason why this industry emerged, and Milton Friedman was one of the architects of the think tank industry, was precisely to keep the ideas ready for whatever crisis hit.
Et leur boulot, eux, bah, ça a été exactement ça. C'est une des raisons pour lesquelles Milton Friedman a participé à leur création, c'est d'être là, prêt, avec les bonnes idées, au moment opportun, bah, pour les répandre dans le public.
Then you have the corporate lobbyists, who are a whole other huge industry.
Et donc vous avez après les lobbyistes du patronat, c'est une industrie immense, elle aussi.
So, I mean, I don't think capital is stupid. I don't think they spend billions of dollars on the lobbyist industry and the think tank industry because it's not useful to them. I think they do it because it is useful.
Et je ne pense pas que les capitalistes soient totalement stupides. Je ne pense pas qu'ils dépensent des milliards de dollars dans ce type d'industrie parce que c'est absolument inutile pour eux. Je pense qu'au contraire, s'ils le font, c'est qu'ils ont quelque chose à y gagner.
So what we must say at this point is, you know, what has this project really been about? And I think it's been a class war waged by the rich against the poor, and I think they won.
Et aujourd'hui, donc, la question se pose, quel était réellement l'objectif de ce projet? Mais pour moi, c'est une guerre de classe menée par les riches contre les pauvres, et bah, il faut bien se rendre compte que les riches ont plutôt gagné.
«
L'hypothèse clé de ce manuel est que de telles techniques constituent, par essence, autant de méthodes pour obtenir une régression de la personnalité. On constate un moment parfois extrêmement bref d'apathie, une sorte de choc psychologique ou de paralysie. Les meilleurs spécialistes de l'interrogatoire reconnaissent un tel moment quand il intervient et savent que le sujet est alors nettement plus ouvert aux suggestions et bien plus susceptible de coopérer qu'avant l'administration du choc.
Naomi Klein, vous dites cette idéologie est en crise. D'abord, il a fallu reconnaître que c'était une idéologie. Parce que très longtemps, tout ça a été présenté comme une évidence, comme quelque chose allant de soi, face à laquelle nous n'avions pas de choix. Au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, on nous a dit c'est la fin des idéologies. Ne parlons plus d'idéologie. Et peu à peu, quand même, grâce au travail de certains, c'est toujours un peu agaçant d'ailleurs que ce soit les Américains qui soient en train de lutter contre le capitalisme, parce que ça, c'était notre boulot, en principe, en Europe. Mais mettons ça de côté. Mais... bon, c'est vous qui le faites maintenant, tant mieux. Mais il a fallu qu'on montre que c'était une idéologie avant de dire qu'elle était en crise.
Mm-hmm. You know, this was another tactic to... declare the end of history, the end of debate. And
bien sûr, ça c'était simplement une autre tactique de déclarer la fin de l'histoire, la fin du débat.
And it really, if you look at the tactics that have advanced neoliberalism over the past 35 years.
Et si on observe par quel biais le néolibéralisme s'est développé au cours des 35 dernières années,
what they all have in common is this determination to avoid debate.
Le point commun de toutes les stratégies mises en œuvre, c'est cette volonté farouche d'éviter le débat.
Now, the use of crisis is a very explicit example of this.
L'utilisation de la crise est un exemple très explicite de ça.
When there's a crisis, there's no time to debate. There's an emergency. We have to
quand
just
y a une crise, on n'a pas le temps de débattre. Il y a des urgences. Il faut voilà, mettre en œuvre des solutions.
It's a democracy avoidance strategy.
C'est une stratégie d'évitement de la démocratie.
But all of the other slogans that have advanced the ideology have this trait in common. There is no alternative, Thatcher.
Mais tous les autres slogans qui ont été utilisés ont ça en commun. Par exemple, il n'y a pas d'alternative, de Margaret Thatcher.
The end of history.
La fin de l'histoire.
These are always a stopping discussion, not starting it.
Tout ça sont des propositions qui mettent un terme au débat.
But you know, some people are claiming that the ideology is dead for good.
Mais vous savez, il y a des gens qui disent que l'idéologie est morte pour de bon.
I think it can be killed.
Je pense qu'on peut la tuer.
But I don't think it's dead.
Mais je ne pense pas qu'elle soit morte.
Alors, because it will come back.
Parce qu'elle va revenir.
And when it will come back, we see very clearly when it will come back.
Et on voit très bien quand elle va revenir.
What the response to Wall Street's crisis and the global banking crisis, and this is true in Europe too, has been to transfer the private crisis to the public sphere.
La réponse à la crise de Wall Street aux États-Unis mais ailleurs a été de transférer cette crise du secteur privé au secteur public.
And what we know is that what is now a public crisis will be used to rationalize more cuts to social spending, more tax cuts, more deregulation to stimulate the market. So that's the next shock.
Et on sait très bien aujourd'hui que cette crise devenue aujourd'hui publique sera utilisée pour légitimer la nécessité évidente de réduire les dépenses publiques, de réduire les retraites. Et ça, si vous voulez, c'est le prochain choc à venir.
Mais quelles sont les solutions que vous imaginez, Naomi Klein?
Well, in this moment, I think it's clear the financial sector has failed on free market terms. The market wants these banks to die.
Pour moi, il est clair qu'aujourd'hui, et pour reprendre uniquement des logiques de marché, le secteur financier a échoué. Le marché veut qu'il meure.
And I think we should accept the market's verdict.
Et je pense,
stop trying to save them.
Peut-être une fois n'est pas coutume, il faudrait accepter le verdict du marché et arrêter d'essayer de les sauver.
And they need to be nationalized, and the profits need to be in the public hands as well, so that the pressing crises of our times, which are not just the financial crisis, it's the global ecological crisis, which demands resources to address, that we have these resources.
Et je pense que donc ce secteur financier doit être nationalisé, que les profits qu'il génère doivent être entre les mains du public pour répondre à toutes les autres crises que nous rencontrons, qui ne sont pas que des crises financières, mais des crises écologiques, qui vont nécessiter pour leur résolution des fonds qui peuvent très bien venir de là.
Ce qui est drôle, c'est que tout le monde est d'accord avec vous en ce moment, c'est-à-dire que tout le monde dit, on l'avait bien dit.
Well, that's why in a moment like this, you should go further. So I'm also calling for the internationalization of the oil companies.
Et c'est exactement pour ça qu'il faut être encore plus exigeant à ces moments-là. Et donc moi, j'en appelle à l'internationalisation des compagnies pétrolières, ce qui veut dire donc l'appropriation collective à un plan international de ces compagnies pétrolières.
J'ai compris. So that their massive profits can be used to finance a switch to green energy.
Et donc on pourrait très bien utiliser les milliards de bénéfices qu'ils produisent pour en passer à une énergie verte, une énergie écologique.
But the point is that it's a moment. For the left to be on the offensive.
Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un moment très opportun pour que la gauche soit à l'offensive pour une fois.
Mais quelle gauche? Elle n'est pas offensive du tout. Je ne sais pas la gauche chez vous au Canada, mais la nôtre, elle est toute molle. Elle dit rien, puisqu'elle a participé à cette révolution conservatrice néolibérale. Elle y a participé. En France, elle a été vous avez eu Thatcher, Reagan, et nous, on a eu François Mitterrand. C'est-à-dire que c'est la gauche. Le libéralisme est entré en France par la gauche, mm-hmm. et il est toujours. Il n'y a pas de gauche en France, mm-hmm. Naomi Klein.
Mm-hmm. I'm sorry to hear that.
Je suis désolé de l'apprendre.
I've heard rumors.
J'en avais un petit peu entendu parler, il y avait des rumeurs.
Et on aura la réponse à cette question dans Le Monde Diplomatique de ce mois-ci. Où est la gauche? C'est un grand papier de Serge Halimi dans Le Monde Diplomatique. La suite de cet entretien, vous le trouverez en version intégrale sur là-bas.org, là-bas.org. C'était 2008, hein, avec Naomi Klein. Merci à tous. C'était La Stratégie du Choc, donc son bouquin, La Montée du Capitalisme du Désastre, qui était sorti aux éditions Actes Sud. Antoine Chao était à Nice, dans la manifestation Les peuples d'abord, pas la finance, en réponse à la tenue du G20 à Cannes demain et après-demain. Une chose très importante, le journal Fakir et là-bas, si j'y suis, organise le 9 novembre à 19h à la salle Olympe de Gouges à Paris dans le 11e arrondissement, la nuit des rapaces. Je vous en dirai plus demain. Merci à tous, il est 16h sur France Inter. On se retrouve demain à 15h pour là-bas, si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.